Chapitre 8. Ombre menaçante. La grande réunion organisée par Mistress Wazmacott en vue de l'affranchissement de la femme avait eu lieu et avait été un succès triomphal. Toutes les vieilles filles, toutes les matrones des faubourgs voisins avaient répondu à son appel. On avait composé un bureau d'influents personnages. Le docteur Balthazar Walker présidait, et parmi les assesseurs les plus importants, siégeait l'amiral Hay Denver, un homme qui n'avait point été éclairé et qui était venu des ténèbres extérieures à la Réunion pour lancer, du fond de la salle, quelques quolibets, avait été rappelé à l'ordre par le bureau, pétrifié par les regards indignés des fanatiques qui l'entouraient, puis finalement conduit jusqu'à la porte par Charles Wazmacott. On avait voté d'énergiques résolutions qui devaient être transmises à un grand nombre d'hommes politiques importants et les assistants s'étaient séparés avec la conviction d'avoir frappé un coup habile pour la cause de la femme. Il y avait toutefois une femme pour laquelle cette réunion et tout ce qui s'y rapportait avait été un événement rien moins qu'agréable. Clara Walker avait le cœur gros en voyant l'amitié et l'intimité croître sans cesse entre son père et la veuve. Cela n'avait fait que s'accentuer de semaine en semaine et ils avaient fini par ne jamais laisser passer un jour sans se voir. La réunion prochaine avait servi d'excuse pour ces entrevues continuelles, mais alors même qu'elles avaient eu lieu, le docteur persistait à soumettre à l'appréciation de sa voisine tous les sujets de discussion. Il vantait à ses deux filles la force de caractère, la décision d'esprit de la veuve, parlait de la nécessité de la fréquenter, de celle de l'inviter, et cela avait fini par devenir son sujet préféré de conversation. On eût pu voir là le plaisir fort naturel que prend un homme d'âge dans la société d'une femme intelligente et belle, mais certains autres détails paraissaient avoir pour Clara une signification plus profonde. Elle ne pouvait oublier que Charles Wazmacott, lors d'un entretien du soir, lui avait fait entrevoir la possibilité d'un nouveau mariage pour sa tante. Il avait certainement appris ou remarqué quelque chose avant de parler de ce sujet. Puis, Mistress Wazmacott n'avait-elle pas dit elle-même qu'elle espérait changer son genre de vie dans un court délai et qu'alors elle s'adonnerait entièrement à ses nouveaux devoirs? Qu'est-ce que cela voulait dire, sinon qu'elle s'attendait à se remarier? Il semblait qu'elle vit très peu de gens en dehors de leur petit cercle. Elle avait une fois fait allusion au père de Clara. C'était une pensée pénible, mais il fallait bien la regarder en face. Un soir, le docteur était resté jusqu'à 1 heure à ses avancées chez son voisin. Il avait l'habitude d'aller voir l'amiral après dîner, mais maintenant, il prenait plus fréquemment la direction opposée. Quand il rentra, Clara était assise seule au salon à lire un magazine. Elle se leva aussitôt qu'il parut, lui avança sa chaise et alla lui chercher ses pantoufles. « Vous avez l'air un peu pâle, ma chérie, » remarqua-t-il. « Oh non, papa, je me trouve très bien. »« Et tout va bien avec Harold ?»« Oui, son associé, Mr. Pearson, est encore absent et c'est lui qui fait tout le travail. »« C'est très bien, il est sûr de réussir. Où est Ida ?» Dans sa chambre, je pense. Elle était, il n'y a pas longtemps, sur la pelouse avec Charles Wazmacott. Il a l'air de l'aimer beaucoup. Il n'est pas très brillant, mais je crois qu'il fera un bon mari pour elle. J'en suis sûre, papa. Il est très courageux et très honnête. Oui, je pense que ce n'est pas un homme qui puisse tourner mal. Il n'a rien de caché. Quant à son peu de brillant, ça n'a réellement pas beaucoup d'importance, car sa tante, Mistress Wazmacott est très riche, bien plus riche que vous ne le croiriez d'après son train de vie, et elle a amplement pourvu à son avenir. J'en suis contente. Cela entre nous. Je suis son fidéicommis, et par suite, je sais quelque chose de ses arrangements. Et quand comptez-vous vous marier, Clara? Oh, papa, pas encore avant quelque temps. Nous n'avons pas encore songé à une date. Eh bien, vraiment, je ne vois pas qu'il y ait aucun motif de tarder. Il a un capital et il accroît tous les ans. Du moment que vous êtes certaine que votre résolution est bien arrêtée... Oh, papa! Eh bien, alors, je ne vois pas pourquoi on tarderait. Et Ida aussi. Il faut qu'elle se marie d'ici à peu de mois. Maintenant, voilà que je me demande ce que je ferai quand mes deux petites compagnes m'auront quitté. » Il prenait un ton léger, mais son regard était grave, et il jetait sur sa fille un œil interrogateur. « Cher papa, vous ne serez pas seul. Il se passera des années avant que Harold et moi nous songions à nous marier, et quand nous le serons, il faudra venir demeurer avec nous. » « Non, non, ma chère, je sais que vous feriez comme vous le dites, mais j'ai quelque peu vu le monde, et je sais que ces arrangements-là ne réussissent jamais. Il ne peut y avoir deux maîtres dans une maison, et cependant, à mon âge, la liberté m'est des plus nécessaires. » « Mais vous seriez tout à fait libre ?»« Non, ma chère, on ne peut être cela quand on est l'hôte d'autrui. Pouvez-vous me suggérer quelque autre alternative ?»« Alors nous demeurerions avec vous. » « Non, non, il ne faut pas en parler. Mistress Westmacott elle-même dit que le premier devoir d'une femme est de se marier. Toutefois, comme elle le fait remarquer, le mariage doit être une société à parts égales. Je désire vous voir mariées toutes les deux, mais quand même, je voudrais bien que vous me donniez une indication de ce que je dois faire, Clara. » « Oh, rien ne presse, papa. Attendons, je n'ai pas l'intention de me marier encore. » Le docteur Walker paraissait déçu. « Eh bien, Clara, puisque vous ne pouvez me fournir aucune suggestion, dit-il, il faut sans doute que je prenne l'initiative. » « Alors, papa, qu'est-ce que vous proposez ?» Et elle fit appel à toute sa force, comme on le fait quand on voit arriver le coup qui menace. Il la regarda. Il hésita. « Comme vous ressemblez à votre pauvre mère, Clara, s'écria-t-il. En vous regardant, il m'a semblé la voir sortir du tombeau. » Il se pencha vers elle et l'embrassa. « Tenez, dit-il, partez vite avec votre sœur, ma chère, et ne vous inquiétez pas de moi. Rien n'est décidé encore, mais vous verrez que tout s'arrangera pour le mieux. » Clara monta chez elle, le cœur gros, car elle était désormais certaine de voir se réaliser ce qu'elle redoutait. Son père allait demander sa main à Mistress Westmacott. En son âme pure et sérieuse, le souvenir de sa mère était conservé comme celui d'une sainte, et l'idée qu'une autre en prendrait la place lui faisait l'effet d'une terrible profanation. Et ce mariage lui apparaissait pire encore en se plaçant au point de vue de l'avenir de son père. La veuve pouvait l'éblouir par sa connaissance du monde, par son entrain, son énergie, son dédain du convenu, autant de qualités que Clara lui reconnaissait sans marchander. Mais comme compagne dans l'existence, elle serait insupportable, la jeune fille en était convaincue. Elle était arrivée à un âge où on ne change pas facilement ses habitudes et elle n'avait pas du tout l'air d'une femme qui ferait un effort pour en changer. Un homme aussi sensible que l'était son père pourrait-il supporter la tension constante que lui causerait une telle épouse, une femme en qui l'énergie avait supprimé la douceur et qui n'avait rien d'une nature conciliante? On pouvait ne voir que des excentricités en elle quand il s'agissait de son goût pour les liqueurs fortes, de ses cigarettes, de la longue pipe en terre dont elle tirait des bouffées de temps à autre, de sa façon de cravacher un domestique ivre, de son affection pour son serpent, cette Elisa qu'elle portait constamment dans sa poche. Quand le premier éblouissement de son père se serait dissipé, ce serait là autant de choses intolérables pour lui. Il fallait donc empêcher cette union dans son intérêt autant que par respect pour la mémoire maternelle. Et pourtant, quelle n'était pas son impuissance à l'empêcher? Que pouvait-elle faire? Harold était-il en mesure de l'aider? Peut-être. Ou bien Ida? En tout cas, elle parlerait à sa sœur et elle verrait ce qu'il y avait à faire. Ida était dans son boudoir, mignonne petite pièce tendue d'étoffe, aussi proprette, aussi coquette qu'elle-même. Les murs bas étaient couverts de plaques d'imari et de jolies petites étagères suisses portant des faïences bleues de caga ou des porcelaines blancs purs de Coalport. Ida était assise dans une chaise basse, sous une lampe à support fixe, à abat-jour rouge, vêtue d'une toilette du soir en mousseline de soie diaphane. La teinte rouge de la lumière se répandait sur sa figure enfantine et donnait un éclat de flamme à ses boucles dorées. Elle se leva aussitôt que sa sœur fut entrée et la prit dans ses bras. « Bonne chère Clara, entrez donc et asseyez-vous là près de moi. voilà des jours que nous n'avons pas bavardé. Mais, oh, quelle figure bouleversée! Qu'est-ce qu'il y a donc ?
Elle avança l'index et le passa doucement sur le front de sa sœur.
Clara prit une chaise, s'asseyant près de sa sœur, lui passa le bras autour de la taille.
« Je suis bien fâchée de vous ennuyer, chère Ida, dit-elle, mais je ne sais que faire. »«
Il ne s'agit pas d'Harold ?»«
Oh non, Ida !»«
Ni de mon Charles ?»«
Non, non !»
Ida poussa un soupir de soulagement.
« Vous m'avez fait grand-peur, ma chérie, dit-elle. Vous ne vous doutez pas quelle figure solennelle vous faites. Qu'y a-t-il alors ?»«
Je crois que papa a l'intention de demander la main de Mistress Westmacott. »
Ida éclata de rire.
« Qu'est-ce qui a pu vous mettre une pareille idée en tête, Clara ?»«
Ce n'est que trop vrai, Ida. Je m'en doutais déjà et il me l'a presque dit en propres termes ce soir. Je ne trouve pas qu'il y ait là de quoi rire. »
« Franchement, je n'ai pu m'en empêcher. Si vous m'aviez dit que ces deux bonnes vieilles filles d'en face avaient trouvé des prétendants, vous ne m'auriez pas étonné davantage. C'est vraiment pas trop drôle. »«
Drôle ? Ida, vous figurez-vous qu'une autre prenne la place de notre bonne mère ?»
Mais sa sœur était d'un naturel plus pratique et moins sentimentale.
« Je suis sûre, dit-elle, que la chère maman trouverait bon que papa fît ce qu'il jugerait convenable pour être heureux. Nous allons le quitter l'une et l'autre. Pourquoi papa n'agirait-il pas comme il lui plaît ?»«
Mais songez donc combien il sera malheureux. Vous savez qu'il aime la tranquillité en toutes choses et que le moindre incident le bouleverse. Comment pourrait-il vivre avec une femme qui ferait de toute son existence une succession de surprises ?» Vous figurez-vous quel tourbillon elle sera dans une maison ? Un homme de son âge ne peut changer ses habitudes. Je suis sûre qu'il serait très malheureux. »
La figure d'Ida prit une expression plus grave et elle réfléchit quelques minutes à la chose.
« Vraiment, je trouve que vous avez raison, comme à l'ordinaire, dit-elle enfin. J'ai une grande admiration pour la tante de Charles, vous savez, et je la crois une personne très utile, très bonne, mais je ne crois pas qu'elle ferait une bonne épouse pour ce bon papa si tranquille.
Mais il va certainement lui demander sa main, et je suis sûre qu'elle a l'intention de l'agréer. Alors, il serait trop tard pour intervenir. Nous n'avons pas plus de quelques jours devant nous. Et que pouvons-nous faire ? Comment espérer que nous réussirons à le faire changer d'idée ?
Ida se remit à réfléchir.
Il n'a jamais su par expérience ce que c'est que de vivre avec une femme forte tête, dit-elle. Si nous pouvions seulement le lui faire comprendre pendant qu'il en est encore temps.
Oh, Clara, j'y suis, quel charmant projet!
Elle se renversa dans sa chaise et partit d'un éclat de rire, si naturel, si sincère, que Clara dut oublier ses ennuis pour faire chorus.
« Oh, comme c'est beau !» dit-elle enfin d'une voix haletante. « Pauvre papa, quel moment il va passer ! Mais tout cela, c'est pour son bien, comme il disait quand nous étions petites et qu'il fallait nous punir. Oh, Clara, le courage ne vous manquera pas, j'espère. »«
Je ferai n'importe quoi pour le sauver, ma chère. »«
C'est cela, vous aurez à vous faire d'acier trempé à cette idée. »«
Mais quel est-il, votre plan ?»
Oh, comme j'en suis fière! Nous ferons si bien qu'il sera dégoûté pour toujours de la veuve et de toutes les femmes émancipées. Voyons, quelles sont les idées principales de Mistress Westmacott? Vous l'avez mieux écouté que je ne l'ai fait. Les femmes devraient moins s'occuper de leurs devoirs domestiques. En voilà une, n'est-ce pas?
Oui, si elles se sentent des aptitudes à des choses plus hautes. Ensuite, elle pense que toute femme qui a du loisir doit l'employer à l'étude de quelque spécialité scientifique, que toute femme doit, dans la mesure du possible, se mettre en état d'exercer un métier, une profession libérale, et donner sa préférence aux emplois qui ont été jusqu'à présent accaparés par les hommes. Quant à envahir les autres, cela n'aurait d'autre résultat que de rendre plus vive la concurrence actuelle.
C'est bien ça! Comme ce sera beau!
Ses yeux bleus pétillaient de malice. Elle était si enchantée qu'elle battit des mains.
Et quoi encore? Elle est d'avis que tout ce qu'un homme peut faire, une femme doit avoir le droit de le faire aussi, n'est-ce pas?
Elle le dit. Et pour la toilette, les jupons courts, le jupon fendu, voilà en quoi elle croit.
Oui, il faut nous procurer de l'étoffe.
Pourquoi ?
Pour nous faire un costume à chacune, un costume d'une coupe inédite, celui de la femme affranchie, émancipée, ma chère. Ne voyez-vous pas mon plan ? Nous mettrons en pratique toutes les idées de Mistress Westmacott en tout genre et nous les développerons si cela se peut. Alors, papa verra ce que c'est que d'avoir une femme qui réclame tous ses droits. Oh, Clara, ce sera splendide !»
Sa sœur, de nature plus douce, restait muette devant une proposition aussi hardie.
« Mais ce serait bien mal, Ida, » s'écria-t-elle enfin.
« Pas du tout, c'est pour le sauver.
Je n'oserai pas.
Oh, si vous oserez, Harold nous aidera. Et d'ailleurs, avez-vous un autre moyen ?»
« Je n'en ai aucun.
Alors, il faut accepter le mien. »«
Oui, peut-être avez-vous raison.
Eh bien, nous agirons pour le bon motif. »«
Vous le ferez ?»«
Je ne vois pas d'autre parti à prendre. »«
Ah, ma chère et bonne Clara, maintenant, je vais vous montrer comment nous devons faire. Il ne faut pas commencer trop brusquement, cela pourrait éveiller les soupçons. »«
Que ferez-vous alors ?»
Demain, nous irons voir Mistress Westmacott, nous asseoir à ses pieds et nous faire enseigner toutes ses théories.
Comme nous nous trouverons hypocrites!
Nous serons les élèves les plus enthousiastes.
Oh, Clara, comme ce sera cocasse!
Puis nous arrangerons nos plans, nous enverrons chercher ce qu'il nous faudra et nous commencerons notre nouvelle vie.
J'espère que nous n'aurons pas à soutenir ce rôle longtemps. Cela paraît si cruel pour ce cher papa.
Cruel, c'est pour le sauver.
Je voudrais être convaincue que nous agissons honnêtement.
Et pourtant, comment faire autrement?
Eh bien, Ida, le sort n'est jeté. Demain, nous irons voir Mistress Westmacott.